pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Dans l'émission de ce jour, il sera question de la théorie critique du sport et de mobilisation sociale en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En seconde partie d'émission, nous nous rendrons à Saint-Denis car la fédération CGT Commerce et Services appelait l'ensemble des travailleurs du commerce et services à se mettre en grève et à se mobiliser ce 17 janvier 2024 devant le siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Mais commençons par la question de la théorie critique du sport. En effet, ce 17 janvier 2024, dans le 11e arrondissement de Paris, la librairie Quilombo recevait, à l'occasion du nouveau numéro spécial consacré aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l'équipe du Chiffon, le journal de Paname et de sa banlieue. Il présentait ce numéro en compagnie de Jean-Marie Brôme, auteur de notamment Pierre de Coubertin, Le Seigneur des Anneaux, aux éditions Quel Sport. Et nous allons entendre une partie de son intervention. Bonne écoute.
La librairie a vu le jour il y a déjà 20 ans, avec pour but de faire connaître la littérature anarchiste et aussi anti-industrielle, critique de la technique également. Nous avons notre petit périodique qui s'appelle La Feuille. Dans lequel on met en voilà on met à l'honneur des éditeurs, des textes, des auteurs qui nous plaisent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du Chiffon, le journal de Paname et de sa banlieue. Il s'agit du 11e numéro déjà. Le Chiffon existe depuis 3 ans.
Ouais, ben merci aussi à l'équipe de Quilombo pour l'invitation, pour l'accueil. On est heureux de recevoir Jean-Marie ce soir aussi, à l'occasion donc de la parution de notre 11e numéro, qui est le premier numéro spécial sur les Jeux Olympiques de Paris de cette année-ci. Donc le Chiffon, en quelques mots, c'est un journal généraliste d'enquête, de reportage, de documentation critique des grandes actualités franciliennes. Voilà, dans une perspective, on pourrait dire, technocritique. Donc l'idée pour nous, notamment, de dénaturaliser le progrès technologique, économique, culturel, prétendu inéluctable de nos sociétés. Donc on est diffusé à Quilombo, qui est un lieu repère, et dans une cinquantaine d'autres lieux, des librairies principalement. On appelle aussi à votre coup de main, si vous voulez nous défendre, nous faire circuler près de chez vous, pour aller démarcher un bar, un caviste, un coiffeur, que sais-je. Et le journal est donc en vente au prix de 4 euros. C'est aussi un journal participatif. Si vous avez envie d'enquêter, de partir en reportage, etc., vous nous écrivez et on en discute, voilà, collectivement. Et il y a aussi au comptoir donc un certain nombre d'ouvrages de Jean-Marie Brôme que je vais présenter. Tu es un des fondateurs de la théorie critique du sport. quelques points biographiques. Tu as été donc élève à l'École normale supérieure d'éducation physique à partir de 1960, ex-INSEP, donc dans le bois de Vincennes.
Du côté de l'INS, Institut national des sports.
Tu vas donc être formé en tant que professeur d'EPS.
Oui.
À la sortie de l'école, tu vas commencer ton œuvre de critique de l'idéologie, des pratiques sportives, etc. Tu préciseras. Dès 64, donc, avec un article universitaire.
Former des âmes en forgeant des corps.
Voilà, en 68, va y avoir un numéro de la revue Partisan qui va être un numéro assez fondateur, on peut dire, dans le bouillonnement 68art, etc. Tu vas publier une thèse, donc sociologie politique du sport, où il y a déjà en germe un certain nombre de points centraux de ta réflexion. Et puis après, va s'en suivre un certain nombre d'ouvrages, Le mythe olympique en 81, en 2008, 1936, Les Jeux olympiques à Berlin, en 2017, Théorie critique du sport, Je passe vite. Et en parallèle, tu vas avoir aussi une réflexion de philosophe sur la dialectique, notamment sur la critique de Heidegger, sur l'anthropologie aussi du corps
et du chien.
Bon, je l'ignore. Et tu vas être donc enseignant, professeur des universités, sociologue à Montpellier 3 pendant 3 décennies.
Ouais.
Et ce parcours se parachève par une apothéose triomphale, par un entretien dans le chiffon, donc. Voilà. Double page, donc, que vous pourrez lire si vous le souhaitez. Puis, tu vas participer à un certain nombre de comités d'opposition aux Jeux Olympiques. Alors, un petit groupe à partir de 68 au JO de Mexico, en 72 au JO de Berlin.
De Munich.
Puis les suivants. Je te laisse la parole. Puis, s'il y a des questions, donc, on peut interrompre Jean-Marie. Et voilà, je te rends l'antenne.
Je précise que je ne suis pas très habitué à parler de ce type de public, parce que d'habitude je suis interviewé par le monde diplomatique, etc. Mais là, toi, j'ai accepté. Oui, c'est comme ça, ou Libération, au pire. là, tu m'as demandé, j'ai accepté, je trouve ça très bien. Parce que précisément, les universitaires ont une tendance absolument très violente à être dans l'entre-soi. Les petits groupes, ça, ils ne connaissent pas. Je trouve ça très bien. Parce que sur la question du sport, j'ai entendu tout et son contraire. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de sport? Je dirais qu'il faut distinguer 3 choses. 1. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie critique? 2. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de sport? Et 3. Les thèses principales que j'ai développées, mais pas simplement moi, mais d'autres avec des camarades, sur les fonctions politiques du sport, politiques et idéologiques du sport. Sur la théorie critique. Une théorie critique, c'est une théorie qui précisément pose la question de la nature intrinsèque d'un phénomène. Or, ce qui a paru à un moment donné, peut-être pas révolutionnaire, mais disons étonnant, c'est qu'on puisse appliquer une critique au sport. À ma génération, la critique du sport n'existait absolument pas. Le sport, c'est bon, le sport, c'est la santé, le sport, c'est l'humanisme, le sport, c'est le développement des liens sociaux, etc. Et ça continue. Donc, une théorie critique, comme le fait Marx, par exemple, je rappelle quand même que le Capital s'appelle critique de l'économie politique. Ce n'est pas simplement le Capital. Une critique de l'économie politique, on pourrait dire la même chose. Par exemple, Freud, c'est une critique aussi de la sexualité, une critique de la famille. Et évidemment, chez Marx, c'est aussi la critique de la religion. Mais ce n'est pas simplement « je suis contre la religion ». C'est analyser pourquoi la religion, le capital et donc le sport ont une telle prégnance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point d'une critique, c'est l'anticritique. Là, je me suis inspiré de Rosa Luxembourg, qui est une grande, grande, grande théoricienne du marxisme et de l'impérialisme. L'anticritique, c'est la critique des autres, de ce que disent les autres. Et toute critique, qu'on le veuille ou non, c'est pour ça que c'est un côté polémique, toute critique, c'est une manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, de dire « je ne suis pas d'accord avec ça ». Et moi, je ne me suis jamais privé de dire ce sur quoi je ne suis pas d'accord. Ça m'a valu d'ailleurs quelques désagréments en général. Bon, les gens n'aiment pas l'anticritique. Ils n'aiment pas la critique, mais n'aiment pas l'anticritique. Et dernier point, même si c'est un aspect délicat, c'est de l'autocritique. C'est-à-dire qu'effectivement, la capacité aussi de prendre en compte ses propres insuffisances à un moment donné. Parce que toute critique se situe non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Je dirais aujourd'hui, pas la même manière si j'avais à reprendre la critique du sport. C'est une chose très importante. L'historicité de la critique du sport, c'est une chose très très importante. C'est pas daté à un moment donné, même si ça a commencé à un moment donné, mais il y a une évolution, il y a une genèse, il y a une transformation. Voilà pour la critique. Ensuite, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de sport? Je dirais qu'il faut distinguer ce qu'un sociologue français, Marcel Mauss, peut-être que vous avez entendu parler de ce monsieur, très grand sociologue, il était à gauche, ça devient rare, les techniques du corps. Je crois que c'était en 1936. Les techniques du corps, Marcel Mauss y découvre que en Afrique, en Asie, en Europe, les gens ne marchent pas de la même manière, ils ne font pas l'amour de la même manière, ils n'enfantent pas de la même manière, ils ne respirent pas, etc. Ils ne mangent pas de la même manière, etc. C'est une révolution épistémologique fondamentale. Et moi, j'ai appliqué ça à propos du sport. C'est que le sport, c'est une manière spécifique d'enrégimenter, de contrôler, de normaliser certaines techniques du corps. Par exemple, courir, sauter, lancer, grimper, que sais-je encore. Se battre. Aujourd'hui, ceux qui font de la boxe, je hais la boxe, bon. Mais vous avez le boxe, la MMA, que sais-je encore, la boxe thaï, vous avez une panoplie de techniques pour descendre l'adversaire, pour se battre avec lui. Même chose pour le judo d'ailleurs. Il faut savoir que moi j'étais escrimeur, de très bon niveau. Et là je me suis rendu compte ce que c'est effectivement se battre. Vous défendez votre peau. Et tout l'humanisme sportif, c'est du bluff, absolument. Surtout quand on est adolescent, moi j'ai commencé dans 15 ans par là, et donc vous êtes repéré tout de suite, et hop, les championnats, et l'équipe de ceci, l'équipe de France, etc. Mais simplement, défendre sa peau, c'est défendre son identité. Vous ne pouvez pas accepter être moins bon que l'autre. Ça pose des problèmes éthiques, épistémologiques, et je dirais même métaphysiques. Ceci, d'ailleurs, pour ceux qui sont dans cette espèce de croyance, nous sommes tous frères, l'humanité sera, etc., ça pose des questions. Donc voilà, distinguer les techniques du corps du sport. Et je dirais que pour comprendre le sport, il y a 4 ou 5 éléments essentiels. 1, les pratiques. Le sport, c'est d'abord une pratique. Par exemple, est-ce que le jeu d'échecs, ça a été dit, c'est très violent le jeu d'échecs, c'est une pratique. Donc le ping-pong, c'est évidemment pas la même chose que le tennis. L'escrime, c'est pas la même chose que... etc. Les pratiques. Vous avez ensuite les institutions. Deuxième élément pour comprendre, analyser. Le sport, c'est d'abord une institution. Je pense que vous faites de l'escalade en solo, non?
Non.
Non, et voilà. Vous êtes dans un club, non?
Non.
Non plus, bon. Donc il y a des copains. Il y a des copains, une équipe, etc. Et youpi, on part en montagne, on fait l'escalade. Bon. Mais en général, et c'est ça ma thèse, le sport a été institué par le capitalisme, disons globalement en Angleterre dans les années 1750, parce qu'on a créé des fédérations, des clubs. Bon. Et donc vous adhérez à un club, et la plupart des gamins, qui notamment en Seine-Saint-Denis, ils veulent faire du foot, et bien ils vont au club local, et là c'est la jeunesse. Un club local, tout à fait local, club régional, club national, club international. Le sport, c'est une institution qui va des clubs locaux, des fédérations sportives, des comités régionaux, que sais-je encore, la fédération de tennis, etc., et le comité international olympique. Et ne pas comprendre cela, que les pratiques sont toutes, aujourd'hui, sans exception, instituées, sous l'institution. Et même les sports nouveaux, par exemple ce qu'on a appelé les sports de rue, les sports, immédiatement, ça a été récupéré. Et les mêmes questions d'ailleurs de les mettre éventuellement à des Jeux Olympiques. Troisième élément pour comprendre le sport, les discours. Le sport, c'est un ensemble de discours. Ce qui est étonnant, regardez un peu la télé, tous ces crétins de journalistes sportifs qui sont encore plus... Vraiment, c'est des frères effarants. Ils ne cessent de bavasser, de parler. Et les commentaires de match, c'est une avalanche absolue de discours. Ils racontent ce qu'ils voient. Et donc, ils donnent des commentaires. Mais derrière ces commentaires, vous avez aussi le discours idéologique. Le sport, et c'est ça, disons, qui me semble essentiel, le sport, c'est un ensemble de thèses idéologiques. Alors, je me suis amusé à étudier un grand idéologue français qui s'appelle Pierre de Coubertin, le rénovateur des Jeux Olympiques, etc., qui à chaque Olympiade, et vous allez entendre ça là bientôt, le grand français qui a institué les Jeux Olympiques, etc., simplement en allant sur ces textes, on trouve des choses merveilleuses. Sur le colonialisme, sur les femmes, bien sûr, bon, etc., etc. Sur le socialisme, c'est affligeant. C'est absolument affligeant. Et moi, j'ai eu des ennuis, y compris professionnels, parce que tous les hagiographes, tous les biographes de Coubertin trouvaient ça inadmissible que je puisse, effectivement, dégommer ce type-là. Coubertin était colonialiste, était contre la commune, était contre Dreyfus, et tutti quanti. Et admirateur d'Hitler. Donc, c'est les chercheurs allemands qui ont découvert, effectivement, une lettre de Coubertin à Hitler en remerciement. Parce que Coubertin, à la fin de sa vie, pour le remercier d'avoir soutenu publiquement les Olympiques de Berlin, on lui a alloué une pension. Parce que Coubertin, à la fin de sa vie, il était ruiné, le pauvre. Donc, l'idéologie. Et quatrième point qui me semble, du point de vue aujourd'hui, essentiel, le sport, c'est non seulement une idéologie, mais c'est un ensemble de fantasmes. De fantasmes et de mythologie. J'en prends trois. Un, qui trotte dans la tête de tout le monde. Quel est le premier homme ou la première femme, bien sûr, avoir gravi, par exemple, le Mont Blanc, par exemple, l'Everest. Le premier homme ou la première femme à avoir sauté, surtout 2 mètres, 2 mètres, c'est pas grand-chose, mais enfin, il faut les sauter, quand même, en hauteur. Le premier homme ou la première femme, c'est surtout le premier homme pour l'instant, puisque les hommes sont supérieurs, pour l'instant. 5 mètres à la perche, 6 mètres à la perche. C'est un fantasme absolu qui est le moteur même pour chacun d'entre nous. Quel est le plus grand? Deuxième fantasme, quel est le plus grand joueur de tennis de tous les temps? Réponse?
Nadal.
Nadal? Non, moi je dis c'est Federer. Ah non, c'est Federer. Ah non, non, c'est Connors. Ah non, etc. Et le meilleur footballeur de tous les temps? Messi, Mbappé, Benzema, que sais-je encore? Voilà. Donc c'est le deuxième fantasme. Et la conversation quotidienne du bon petit peuple, c'est ça. Par exemple, les gens qui ont des scolaires, je peux vous dire, ils ne causent que de ça. Que de ça. D'ailleurs, à tel point, et là vient se greffer l'idéologie, qu'on achète des maillots derrière, floqué, Messi, Mbappé, que sais-je encore. Et troisième fantasme mythologique, c'est jusqu'où les records peuvent-ils progresser? Y a-t-il une limite ou pas? Donc le sport, c'est l'illimitation d'une course à l'infini. Ben voilà, vous voyez, donc ça fait quelque chose de compliqué. Si on ajoute à ça que tous les sportifs, ou tous les idéologues sportifs, ou à peu près sans exception, expliquent ceci, le sport c'est bon pour la santé. Mais quel sport? Et jusqu'à quel point? Quand vous voyez cavaler les gens, moi, le marathon de Paris... Et le demi-marathon de Paris passe à 200 mètres de chez moi, dans le bois de Vincennes. Vous voyez des gens qui arrivent carrément livides au bout de 4 heures de course. Hein. C'est bon pour la santé. La boxe, c'est bon pour la santé. Donc, sport et santé. Et encore plus marrant, sport et sexualité. Alors, évidemment, il y a toute une période, la sexualité, évidemment, le sport, ça empêche les jeunes de trop penser à ce qu'il ne faut pas faire. Bon. Aujourd'hui, au contraire, les sportifs, ce sont des joailleries. Bon. Donc, vous voyez, le rapport là entre la gestion du corps par le sport et les pulsions sexuelles. Là-dessus vient ce qu'est fait aussi la thèse du masochisme. Il faut quand même en vouloir pour en baver, par exemple, pour ceux qui font de l'ultra-trail, etc. Vous voyez, ou le marathon, je ne sais pas, dans le désert, c'est dur. C'est très dur. D'ailleurs, à l'armée, moi, j'ai fait mon CS militaire, faire des pompes, ouais. Des abdominaux. C'est bon tout ça. Et la thèse majoritaire que vous entendez chez les entraîneurs, c'est bon, t'es là pour en chier. T'es là pour en baver. Donc vous voyez, c'est une apologie de la souffrance, c'est pas anodin. Dernier point, je laisse la parole. Je vois qu'il y a quand même des sourires un peu narquois. C'est quelles sont les fonctions principales du sport. Là, je reviens un peu en théorie. Je pense évidemment, pour moi, le sport ne peut pas ne pas être un support majeur aujourd'hui du capitalisme mondialisé. Il n'y a pas une seule activité sportive, professionnelle et même amateur, soit le cyclisme, le tennis, le football, le rugby, etc., etc., qui ne soit pas effectivement sous l'emprise directe du capital financier mondialisé. Ça pose quand même problème. Deuxième point, là je me réfère à quelqu'un qui n'était pas moi, franchement mon ami, mais que je trouvais quand même très intéressant. Louis Althusser, membre du Parti communiste, il avait étranglé sa femme. Dans un moment de lucidité absolue, il avait étranglé sa femme. Mais ça posait d'ailleurs problème. Mais il avait trouvé un concept qui est quand même très intéressant sur l'État. Il avait distingué l'appareil répressif d'État et l'appareil idéologique d'État. Et ça, c'est une chose très importante parce que la plupart des marxistes aujourd'hui, et même tous les courants de gauche et d'extrême gauche, oublient absolument le rôle décisif, capital, structurel de l'idéologie. C'est l'idéologie qui détermine. Ce n'est pas simplement les forces productives. Troisième élément à mon avis, centrale du sport, c'est précisément ce que Herbert Marcuse, appelait la sublimation répressive. C'est-à-dire que le sport est une manière, non pas de réprimer, mais de sublimer, non seulement la sexualité, mais le masochisme, etc. Bon. Et quatrième point, qui est peut-être le plus essentiel, là je me réfère à moi. Je me suis inspiré aussi du freudo-marxisme, des gens comme Reich et compagnie. C'est la gestion, entre guillemets, de l'agressivité. La psychologie de masse. Pour moi, le sport de compétition a à voir quelque chose structurellement avec le fascisme. Structurellement. C'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes pulsations. Et d'ailleurs, tous les régimes fascistes, sans exception, ça commence avec Mussolini, hein, en Europe de l'Est, l'Allemagne hitlérienne, bien sûr. Mais on peut dire aussi que les régimes totalitaires, par exemple, regardez la Corée du Nord, la Russie, j'en passe, etc. Le sport. Donc un régime devient autoritaire, fascisant, en se servant massivement de la passion sportive. Voilà. Et dernier point, aujourd'hui, mes chers collègues, tous ou à peu près, ont développé cette idée, la passion sportive. Je suis passionné. La passion sportive. Analyser ce qu'est une passion, vous allez voir ça maintenant, là, dans très bientôt. Vous allez voir des gens dans la foule, dans la rue, hurler, beugler, etc. Comme on avait vu ça en 98 pour le championnat du monde de football, en 2004, 2008, etc. Voilà, quelques éléments de réflexion.
Alors moi, j'aimerais te poser une question, peut-être, avant d'ouvrir un peu les échanges.
Dans le timing.
Très court. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu considères comme la naissance du sport, tu dis milieu du XVIIIe siècle en Angleterre, parce qu'on pourrait avoir de bonnes raisons de penser que les bourgeons, les prodromes du sport ont des origines bien plus anciennes, à travers notamment la compétition, on pense aux jeux antiques, à travers la réglementation qui était déjà en train de s'organiser. Tu parles de la chronométrie au XVIIIe siècle. Bon, il y avait le clepsydre, il y avait le sablier, etc. En quoi le chronomètre change ou non les choses ?
Complètement.
Et la professionnalisation. Tu parles d'une professionnalisation et d'une salarisation pour valoriser du capital, etc. Mais il y avait des formes de professionnalisation auparavant, chez les athlètes. Donc, en quoi, selon toi, il y a rupture au XVIIIe siècle ? Est-ce que tu peux préciser un petit peu ?
La question que tu poses, là, que tu me poses, c'est une question théorique fondamentale. C'est le problème du rapport entre la continuité et la discontinuité. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que Coubertin s'est appuyé. Il s'est bien rendu compte que les Grecs avaient ce qu'on appelait les agones, bon, l'agonistique. Les Jeux Olympiques grecs, effectivement, il y avait déjà des professionnels, des gens qui se faisaient payer. Mais ce n'était pas du tout la Grèce n'était pas un pays, c'était pas un régime capitaliste. On dirait ça pré-capitaliste, ça comme tu veux. C'est la raison pour laquelle je pense une analyse marxiste des différents modes de production absolument essentielle. L'Angleterre, dans le XVIIIe siècle, commence à être vraiment un système purement capitaliste. Bon. Et là, on voit des runnings, ce qu'il appelle le running, avec des compétitions par rapport aux chevaux. Les gens couraient à côté des chevaux et faisaient des compétitions avec des paris. Paris payant, bien sûr. Donc, tout ça était déjà en germe. Marx explique ça très bien aussi, que le capitalisme n'est pas tombé du ciel. Il y a une genèse. Mais à un moment donné, il y a des ruptures. Bon. Et pour moi, la rupture, c'est effectivement en Angleterre. Bon. D'autant plus que l'Angleterre, étant une nation déjà impérialiste à l'époque, exporte ce qu'on veut, ses marins, ses machins. Et donc, notamment le sport. Le sport était exporté par l'Angleterre, en Inde, un peu partout. La France aussi un peu exportée. Bon. Donc, évidemment, c'est cette complexité-là qui est difficile à comprendre. Mais je pense qu'il y a une rupture entre le sport antique, par exemple le sport du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait des trucs qu'on appelle la soule. Bon, ça n'a rien à voir avec le football. C'est un mélange de rugby, de foot, etc. Bon, voilà. Alors, il y a toujours eu, c'est là.
Et pourquoi ça n'a rien à voir? Tu veux.
C'est pas la même codification. Il y a des gens qui font du foot aujourd'hui, non, un peu ici. Ce que c'est que le hors-jeu. Quand l'arbitre fait comme ça pour dire on va vérifier si. Voilà. Tout ça n'existait pas. Donc il y a une telle technologisation, codification, normalisation, réglementation qui n'existait pas. Bon. Et ça, pour moi, c'est absolument central. Et surtout l'institution. C'est l'institution qui permet de comprendre aujourd'hui la spécificité du sport qu'on peut appeler bourgeois ou capitaliste, etc. Bon. Mais la même chose en URSS. Si on ne comprend pas ça, on est dans l'idée que finalement le sport, c'est-à-dire c'est l'idéologie que j'ai toujours essayé de critiquer, dans l'idéologie que de tout temps l'homme, ben oui c'est ça, de tout temps l'homme a voulu courir. Par exemple, vous prenez un numéro de la Pléiade chez Gallimard, c'est un truc très prestigieux, sur les sports. On t'explique que de tout temps l'homme a nagé. Ah oui, Néandertal, pour traverser un fleuve, il est obligé de nager. Bon. Simplement, la nage, ce n'est pas la natation. La bicyclette, ce n'est pas le cyclisme. Donc on retrouve la même chose, entre la distinction entre pratique du corps, et l'institution qui gère cette pratique, qui la normalise au point de la transformer complètement. Aujourd'hui, le cyclisme, je ne sais pas si vous avez déjà vu le Tour de France, il faut regarder quand même. C'est toujours marrant de voir un peu ces crétins qui pédalent comme des malades. Ils montent les montagnes, maintenant, voilà. Évidemment, ils ne sont pas dopés. Il y avait déjà, du temps des Grecs, il y avait déjà un peu des choses qui permettent de renforcer la vitalité. Mais le dopage, aujourd'hui, c'est en gros à partir des années 70. Vraiment, ça a changé de nature. Aujourd'hui, c'est un dopage d'État, un dopage scientifique, ultra-médicalisé, et à tel point qu'on ne sait même plus si on peut encore contrôler. Par exemple, un type comme Nadal, il a mal régulièrement, le pauvre. Il a mal régulièrement. Il a arrêté encore parce qu'il a une déchirure. Je suis toujours très ami avec le grand spécialiste du dopage en France, Jean-Pierre de Mondenard. Il était médecin du Tour de France. Et lui m'a expliqué effectivement comment ça se passait. Avant des années 80, hein, il était médecin du Tour de France, ça avait commencé. Il pisse dans des trucs, tout ça absolument trafiqué. Vous avez tous suivi l'affaire Armstrong. Il a gagné 7 fois ou 6 fois le Tour de France. Il a été contrôlé je ne sais pas combien de fois. Jamais rien trouvé. C'est le FBI. Donc il faut, ça prouve bien que comme le FBI, c'est efficace. C'est le FBI. C'est le FBI qui a découvert le trucage. Donc ça c'est tout à fait nouveau.
Est-ce que tu veux revenir aussi sur l'importance du chronomètre?
Oui, le chronomètre.
Parce que tu as animé une revue qui s'appelait le chrono enrayé.
Le chrono enrayé.
En quoi, là, il y a un point nodal?
C'était un truc un peu ironique. C'était à l'époque, je militais à l'école émancipée. Une tendance syndicaliste révolutionnaire. Et donc, on avait fait une revue qui s'appelait le chrono enrayé, pour justement dire, maintenant, on arrête les chronos. Parce qu'aujourd'hui, le chronomètre, c'est pas seulement dans le sport. C'est partout, ça avait commencé le taylorisme. Tout est chronométré. Vous avez eu le film Charlot, je sais pas comment il s'appelle. Bon. Tout est chronométré, tout. Et le sport participe de ça. Mais en plus, le sport est le modèle paradigmatique, si je puis dire, du chronométrage. C'est pour ça que le sport n'est pas simplement le sport. Le sport, c'est effectivement ce qui structure de haut en bas, à gauche et à droite, notre société. Être tout sportif. Donc voilà, le timing, time against, match against time, c'était ça aujourd'hui. Les Anglais, ils ont inventé ça. La lutte contre le temps. Et donc, si on généralise cette perspective-là, du point de vue fantasmatique, la lutte contre le temps, c'est quoi? C'est la lutte contre la mort. Donc le sport, c'est aussi une, comment dirais-je, une métaphysique de la mort, puisque à 34 ans, vous êtes foutu. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont un peu plus de 36 ans. Si à 34 ans, vous êtes foutu, à 24 ans, il y a des footballeurs qui n'arrivent même plus à courir, tellement ils sont dopés. Donc cette lutte contre la mort est dans le sport. Par exemple, Anquetil, cycliste, il est mort à 56 ans. Pourquoi? Il était dopé jusqu'au... Donc voilà, tous ces liens-là qui me semblent être essentiels pour comprendre aujourd'hui la nécessité d'une critique théorique du sport. Ça ne veut pas dire qu'il faille dire « toi, tu fais du sport, c'est pas bien », non. Mais faire comprendre, effectivement, qu'il y a activité physique, et quelle activité physique, et sport. Et justement, tout le tour de passe-passe de Macron et de quelques autres, hein, c'est justement de faire une identification entre « faites du sport 30 minutes par jour ». Qui va faire 30 minutes? Des gamins. Et comment? Et où? Dans quel gymnase? Dans quelle piscine? Vous avez déjà été dans une piscine en France? C'est dégueulasse. Voilà.
Il y a une critique qui revient assez facilement quand on attaque le sport. Et c'est le fait qu'on dise que c'est classiste. C'est-à-dire que critiquant le sport, on critique
la classe populaire.
Des pratiques populaires, absolument. Et en ce sens, on se fait aristocrate, etc. Donc Jean-Marie, est-ce que tu es un affreux bourgeois, en fait? Qu'est-ce que tu peux répondre justement à cette
mais non, le problème, à cet élément-là le de... problème, c'est comme si on expliquait que Marx, ça lui a été reproché, bon, était classiste. Il n'avait pas de sympathie immodérée pour le peuple. Donc il faut là aussi distinguer, ça a été fait ultérieurement, le peuple souverain, c'est lui qui édicte sa loi, sa règle, etc. Et puis le peuple avec tous ses défauts. Les gens, ils volent, ils trompent leur femme ou leur mari, ça arrive aussi. Ils ne sont pas sympas. C'est pas le même peuple. Et comment dirais-je, et être classiste, c'est que toutes les classes sociales aujourd'hui, toutes, font des sports différenciés. C'est vrai qu'il y a un aspect de classe. Par exemple, le tennis, très longtemps, ou l'équitation, et même à mon époque, l'escrime. Il se trouve que j'étais dans un lycée populaire comme moi. L'escrime, c'était un sport de classe. C'est clair.
Le golf.
Le golf, bon. Mais aujourd'hui, le golf, tu as des golfs populaires. Tout le monde fait du golf parce que c'est l'équitation. Voilà. Donc voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre culture populaire et culture de masse à ce moment-là? Est-ce que ça ne nous éclaire pas? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, bien sûr. Ben voilà, c'est... Par exemple, il y a un type qui a beaucoup remué les marxistes traditionnels, c'est-à-dire staliniens essentiellement, et les psychanalystes, c'est Wilhelm Reich. En 1933, Wilhelm Reich écrit un bouquin en allemand, ça a été mal traduit, « Masse und Psychologie des Faschismus »,« Psychologie de masse du fascisme », où justement Reich explique que la masse sous le fascisme, ce n'est pas le peuple. Sinon, ça a été complètement dévargué, manipulé. Et à travers quoi? À travers l'identification des idoles. L'idolâtrie, c'est la même chose pour la religion d'ailleurs. L'idolâtrie d'un leader, d'un sportif, d'un grand leader surtout, le grand timonier, je ne sais pas si vous vous souvenez, non, vous êtes un peu trop jeune. Mais moi je me souviens en 68, il y avait le grand timonier, Mao Tse-tung, hein, le grand dirigeant, tout était grand. À partir du moment où tu as une identification, ça devient de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, nous avons une forme d'idolâtrie, le grand chef. C'est la raison pour laquelle des analyses comme celle de Reich, sur la psychologie de masse du fascisme, permettent justement d'aiguiser le sens critique. Évidemment, Macron, ce n'est pas un fasciste. Bon. Mais il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là. À partir du moment où évidemment, il n'y a plus de critique possible. Comme disait Mao Tse-tung, c'est la seule chose intéressante qu'il ait dite. Si vous voulez attraper les petits du tigre, il faut aller dans sa tanière. Si on veut savoir ce qu'est la bourgeoisie, il faut écouter ce qu'elle dit. On croit savoir, c'est pas vrai. On croit savoir, c'est pas vrai, jamais.
Tu avais une question ?
Est-ce qu'il y a aussi la question du dépassement de soi ? Dans les années 80, on avait des gens qui sautaient de falaises en élastique. Donc il y avait ce côté un petit peu, voilà, il fallait un peu se dépasser. Et du coup, ça crée des choses assez étonnantes. Et comme aujourd'hui, la question se pose aussi socialement, c'est on est déclassé, on ne sait plus trop où on va dans les entreprises. Et donc du coup, on se dit, bah peut-être pour exister, pour continuer à vivre, bah, peut-être effectivement me prouver aussi à moi-même que je suis capable de faire quelque chose hors de l'entreprise, hors de toute chose, c'est-à-dire par rapport à moi-même, c'est-à-dire me dépasser. Est-ce que justement, là, il n'y a pas ce besoin aussi de se dépasser pour essayer d'échapper à la condition humaine dans laquelle on évolue?
Justement, c'est un des aspects du sport, c'est une théorie du dépassement. Le sport, c'est toujours plus haut, plus vite, plus fort. C'est le plus. Donc, effectivement, se dépasser, quand on court un marathon, je ne sais pas combien, se dépasser. D'ailleurs, les gens se chronomètrent eux-mêmes. Hein. Je vois le marathon, ils ont des machins. Et, en général, les gens courent le marathon en 3 minutes 30, parfois 4. Bon,
et
3h30. Et quand ils gagnent 10 minutes, eh ben, ils se sont dépassés. Effectivement, et c'est bénéfique aussi pour eux. C'est aucun problème. De la même manière, gravir une montagne, aller jusqu'à 3000 mètres, ensuite 3500 mètres, etc. Bon, donc ce type de dépassement. Mais on peut se poser la question aussi d'un autre type de dépassement. Et ça, ce dépassement par rapport à soi, par rapport aux autres. Et c'est là la question de la compétition qui se pose. Est-ce que le dépassement, c'est une compétition par rapport à soi, par rapport aux autres, ou c'est le perfectionnement? Les Grecs avaient trouvé quand même. Les Grecs ont inventé beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement le dépassement, c'est la perfection. La recherche de la perfection. Et la perfection, ce n'est pas forcément le dépassement. C'est la créativité, ça peut... Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de patriotisme kitsch? On a gagné, on a eu des médailles, etc. Parce que moi, personnellement, savoir qu'un nageur vient du Lot-et-Garonne, je m'en fous. Le nationalisme, c'était plutôt 19e, début 20e. Aujourd'hui, l'exception culturelle française, bon, voilà. Moi, j'ai un iPhone, j'écoute du hip-hop américain, et puis...
Je dirais que presque c'est indépassable. Mais en tout cas, le sport est une matrice absolue du chauvinisme, du nationalisme et de la xénophobie. Ça, c'est clair. Bon. On a gagné, c'est qui on? Et ça commence d'ailleurs dans un village, hein. Entre deux villages, il se fout une pâtée. Freud appelle ça le narcissisme des petites différences. On est tous des Bretons, mais les Bretons du Nord et ceux du Sud, c'est pas les mêmes. Et même dans une ville, par exemple à Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético, pareil. Donc apparemment, c'est le chauvinisme, la xénophobie et le nationalisme. On a gagné. Donc le décompte des médailles. Coubertin voulait que les Jeux Olympiques soient un concours individuel. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est le nombre de médailles gagnées par la France, les États-Unis, etc. Et puis on va faire le décompte. Et d'ailleurs, Macron a expliqué, j'ai un problème par rapport à Macron en ce moment, il a expliqué qu'il fallait absolument entre 50 et 60 médailles. Et il faut les faire, hein, quand même. Hein. On verra combien. Alors, si jamais l'équipe de France n'en fait que 40, c'est une défaite. L'idéologie du record, l'idéologie de la performance, l'idéologie du dépassement, tout ça, c'est un ensemble qui est structurant, l'idéologie nationale, nationaliste.
Bon, je vous propose qu'on en reste là. Voilà. Donc, en caisse, vous pouvez retrouver quelques ouvrages de Jean-Marie Brome. Voilà, si vous voulez défendre la presse locale, il y a aussi les chiffons. Vous pourrez, en page centrale, il y a une surprise, poursuivre la compétition olympique. Voilà, dans la joie et la plus grande des convivialités.
Le bonheur.
Voilà.
Merci. Merci. Merci, c'est bon.
You will not be able to stay home, brother. will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Et dans cette seconde partie d'émission, on ne va pas perdre tout à fait l'œil sur le sport puisque nous continuons sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et l'appel à la grève et à se rassembler ce 17 janvier 2024 devant le siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques à Saint-Denis. Car les travailleurs du commerce et services ne veulent pas être les esclaves du capitalisme. En effet, un palmarès de mesures régressives est déjà annoncé, notamment un décret permettant de suspendre